Il était déjà, à ses débuts, un grand Européen, un exemple d'intégrité. De Jacques Delors, j'ai dit et écrit qu'il était la belle image de l'honnête homme. Nous fûmes complices à Radioscopie, mais aussi au grand échiquier que je lui avais consacré en direct de Bruxelles. Attendrissant souvenir, c'était en 1988. Jacques Delors, merci de nous accueillir dans votre maison ici à Bruxelles. Président de la Commission européenne, vous préparez les grandes voies de 1992. Nous sommes à la veille de grands développements. 1992 permettra à l'Europe de faire un pas de géant. Mais moi, je pense à cet immeuble, là où nous sommes, ici à Bruxelles. Et vous dites toujours « ma maison ».
Bien sûr, parce que je suis un peu un voyageur de commerce. Je prends 160 fois l'avion par an. Je dois non seulement visiter les 12 pays membres, mais aussi représenter la communauté européenne dans les grands forums internationaux, dans des visites d'État au Japon, en Chine, aux États-Unis. Donc j'aime bien me retrouver à la maison, parce que là je peux travailler, voir mes collaborateurs, humer comment la maison marche, si elle va dans le bon sens.
C'est le lieu de recueillement, de repos, le passage obligé.
Oh, c'est un passage agréable.
Un passage. Alors, il y a les développements de demain, il y a le rayonnement nouveau, et d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. L'Europe est aujourd'hui un projet parfaitement accepté. On ne peut pas dire qu'il en fut autrement, différemment autrefois.
Oui.
Accepté.
Oui, une courte histoire.
Oui, une courte histoire.
Si l'on laisse de côté ceux qui y rêvaient déjà avant le dernier conflit mondial, on peut penser que c'est après la guerre et le choc de ce que certains ont pu appeler, à juste titre, une guerre civile entre les Européens, que tous les hommes politiques importants de notre Europe ont pensé plus jamais ça entre nous. Et ça a été le point de départ avec un formidable congrès enthousiasmant à La Haye en 1947. Puis ensuite, on a cherché les voies, il y a eu des succès, on a mis ensemble nos ressources en charbon et en acier, ce qui, dans les années 50, avait de l'importance, des échecs, vous rappelez, la communauté européenne de défense. Et enfin, puisque c'était la seule voie possible, en 1957, le traité de Rome, qui est notre charte, et qui prévoyait la création d'une communauté économique entre 6, puis nous sommes élargis à 9, 10 et 12. Et nous voilà à 12, après des années difficiles, de crise, de stagnation, en plein réveil depuis 1984, un réveil qui enthousiasme certains, qui fait craindre d'autres, qui fait rêver les jeunes. Comment faire passer ce rêve et cette volonté? C'est la grande question.
Mais Jacques Delors, on peut quand même faire confiance aux hommes, parce qu'il a fallu pas tout à fait un demi-siècle, et pourtant les déchirures, les blessures étaient terribles.
Oui, c'est assez. Quand on regarde ça du point de vue de l'histoire, c'est assez formidable.
Ah, c'est un chef-d'œuvre.
Quand on interroge les Français et qu'on leur demande quel est le peuple dont vous vous sentez le plus proche, ils hésitent entre les Allemands et les Américains. Et ça, c'est magnifique. J'étais mercredi dernier à Freiburg pour, de temps en temps, il faut aller voir les citoyens de l'Europe, là où ils sont, et à quelques kilomètres de la frontière française, avec un tiers de la salle qui parlait français, c'était vraiment la fraternité. C'est magnifique, l'Europe, comme ça.
Alors, j'ai devant moi cette déclaration sur les orientations de la Commission des communautés européennes. C'est le discours de présentation que vous avez prononcé le 14 janvier 1985. Et il y a cette petite phrase dans le cours de votre discours. « Est-il présomptueux d'annoncer, puis d'exécuter la décision de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe d'ici à 1992. Ouais. Alors, vous avez lancé pour la première fois ce chiffre 1992. Et comme vous ne faites jamais les choses à moitié, Jacques Delors, je voudrais savoir s'il y a une symbolique, si vous avez été inspiré, parce que dans 1992, il y a 92, dans 92, il y a les 12, oui. Vous ne pouviez pas le prévoir, il y a 9 et 2, y a-t-il une symbolique? Il y a 92 et c'est le départ de l'expédition, c'est Christophe Colomb, mais c'est déjà l'Espagne. Je ne sais pas, moi, je rêve.
Soyons modestes. Je me suis dit souvent que si j'avais été à la tête d'une agence de publicité, j'aurais fait fortune avec un seul slogan. Mais en réalité, mon propos était plus simple. Et il s'inspirait des 27 ans d'histoire européenne, je vous le dis, marqués par des avancées, mais surtout des crises. Et puis des mots qui n'ont plus aucun sens. Chaque année, les chefs d'État européens se réunissaient trois fois, faisaient de grandes déclarations, mais n'était pas crédible. Il fallait donc trouver un projet qui les rassemble. C'était celui de l'Europe de la nécessité. La crise, comme disent les gens dans la rue, la crise. Pas assez de croissance, pas assez d'emplois créés. Donc je leur ai dit, si vous vous mettez ensemble, si vous supprimez les frontières, toutes les entraves, ben vous allez retrouver votre dynamisme. Mais me rappelant toutes ces résolutions de Conseil européen qui n'avaient été suivies de rien, je me suis dit, il faut qu'ils s'engagent sur une date. Et à ce moment-là, j'ai évalué à 8 ans le temps nécessaire pour réaliser cet objectif, et c'est ainsi qu'est né 1992.
Donc 92 est venu dans le cours de la conversation parce que vous pensiez que c'était un cap.
Non, parce que me référant à toute l'histoire de l'Europe, à ceux qui ont génialement conçu le traité de Rome, il fallait un consensus, un engagement. Et cet engagement, il fallait le matérialiser d'une manière ou d'une autre, c'était une date.
Alors Jacques Delors, je sais à quel point vous aimez le sport, et particulièrement le cyclisme. Vous savez que les Hauts-de-Seine portent le numéro 92.
Oui.
Et dans le Tour de France, vous savez quel est le maillot 92, puisqu'ils ont un maillot. C'est le maillot de la performance.
Oui.
Donc 92 à sa place à chaque fois.
Oui.
Et puis, c'est 92 maintenant, c'est inscrit.
Oui, on le met d'ailleurs un peu à toutes les sauces, mais oui. Ça ne peut être comme ça. On ne peut avoir du succès que dans ces conditions.
Il peut y avoir aussi un peu, dans tous les raisonnements, de l'utopie, et vous avez écrit un livre, et nous y reviendrons, ce livre, c'est « La France par l'Europe », et à la veille du troisième millénaire, car il vient ce troisième millénaire, là, il frappe à la porte, la France, dites-vous, doit en finir avec ses guerres intestines. Or, Jacques Delors, vous êtes président de la Commission européenne, mais vous êtes français. Mmh. Peut-on dire « je suis d'abord français » ?
Oui.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
Oui.
Il faut continuer à le dire. L'Europe ne se fera qu'en accumulant nos richesses et en respectant nos diversités. Et vous voyez que dans ce livre qui va paraître dans 3-4 jours en librairie, eh bien je fais appel au rayonnement de la France, à son génie propre, mais je pense qu'il ne pourra maintenant s'épanouir que dans l'Europe, parce que nous vivons à l'époque des grands ensembles. Les États-Unis, le Japon, mais aussi tout l'entourage asiatique, les Chinois qui sont plus d'un milliard, l'Inde, ils sont 700 millions. Donc il faut penser à cet échelon-là.
Vous avez moins peur qu'avant de ce monde-là, des Japonais, des Américains, de l'Inde ?
Ah bah depuis 3 ans, je crois que les Européens maintenant n'ont plus à avoir peur de personne.
Vous en êtes sûr de ça ?
Oui, j'en suis sûr. Maintenant, c'est parti.
Cela veut dire que vous êtes prêts, qu'ils sont prêts, que les 12 pays sont...
Ils sont sur la voie d'être prêts. Mais de dire psychologiquement, ils ont changé.
Alors,
il y a quelques années, rappelez-vous, quand il y a eu la hausse du prix du pétrole. Moi, je n'étais pas surpris. Pas par la hausse du prix du pétrole, mais par le fait que nous étions dans l'embarras. Parce que le monde était en train de changer. Notre modèle économique était à bout de souffle. Donc la hausse du prix du pétrole, c'était un peu le nez de Cléopâtre de l'histoire.
Oui.
Qui montrait que l'Europe était menacée par le déclin. Mais quand on est riche, globalement, même s'il y a des pauvres, et qu'on est en déclin, on ne le sent pas. Alors, comme nous sommes des gens qui avons une grande civilisation, un passé, nous sommes un peu chauvins, pas seulement les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols.
Ce qui fait l'identité de chaque pays.
Oui, mais alors nous avions tendance à nous allonger, à mettre un mollet de redon sur nous, et à dire, oh, tout ça, ce sont des barbares. Eh bien, je crois que maintenant, l'Europe a compris qu'il ne s'agissait pas de barbares, mais de gens qui voulaient leur place au soleil, que le monde était dur, donc il fallait se battre, et en même temps être ouvert aux autres. Ce qui n'est pas facile, mais ce qui est la grandeur.
Alors, le vouloir vivre ensemble est possible ?
Le vouloir vivre ensemble est possible en France, et il est possible en Europe. Alors là, nous en administrons la preuve, puisque ces 12 pays ont des gouvernements à majorité différente. Et pourtant, ils se sont mis d'accord sur non seulement la réalisation de ce grand espace économique commun, ce qui promet à nos jeunes davantage d'emplois, de croissance, de prospérité, nous permettra de sauver nos systèmes de sécurité sociale. Mais en plus, ils se sont mis d'accord sur la dimension sociale de cette Europe. Ils se sont mis d'accord pour lutter ensemble contre le cancer et contre le sida. Et demain, ils se mettront d'accord pour rénover leur système d'éducation, pour rayonner leur culture, pour régler le problème qui vous tient tant à cœur, celui de l'audiovisuel.
Ah oui, ça c'est important.
Oui.
Il faudra vraiment qu'on s'y mette là.
Alors, c'est un engrenage dynamique.
Vous vous rendez compte, Jacques Delors, de la place que vous occupez, de la responsabilité que vous avez ?
Oui, bien sûr. J'en ai jamais eu autant conscience dans les 13 autres métiers que j'ai fait avant.
Qu'appelez-vous 13 autres métiers ?
Eh bien, depuis que je travaille, ça s'en suit à mon 14e métier, je ne vais pas vous les énumérer.
Il y en avait 13 et c'est le 14e cette fois-ci.
Voilà.
C'est une chance de passer le cap des 13, hein.
Ah oui, bien sûr, mais moi je ne suis pas superstitieux.
Alors il y a cette aventure que vous menez, il y a ces 12 pays qui sont aujourd'hui engagés dans ce combat. 92 maintenant est une date qui a été régulièrement fixée. Il y a les langues. Mmh. Alors peut-on dire qu'il y aura une langue de l'Europe ?
Non, je ne le crois pas. Je crois que chacun gardera sa langue parce que, voyez-vous, une langue, c'est le reflet d'une culture. Ce n'est pas pour rien que l'on conjugue les verbes différemment. Ce n'est pas pour rien que dans telle langue, il y a 3 fois plus de mots que dans un autre. Chaque langue, si j'avais le temps, j'écrirais un livre sur ce qu'elle signifie.
Oui.
Mais pas en tant que linguistique, je ne suis pas capable, mais en tant qu'homme de civilisation qui va voir un peu partout.
Il faut demander à Claude Agege.
Oui, mais en revanche, je crois que pour des raisons de commodité de travail, nous serons obligés de décider rapidement en 2 ou 3 langues. Mais l'essentiel, c'est que tous les documents importants seront faits dans les 9 langues de la communauté et que chacun puisse s'exprimer dans sa langue et que d'excellents interprètes, nous avons le meilleur service d'interprétariat du monde.
Ah, j'ai été étonné, vous avez combien d'interprètes ici à Bruxelles à
interprètes et traducteurs, on doit être aux alentours de 3000.
Donc c'est la nécessité
oui.
de parler les autres langues. Alors il pourrait y avoir, dans un système d'éducation nouveau, il pourrait y avoir 4 langues. Alors, disons-le comme ça, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol. Non, parce qu'on ne peut pas faire étudier à des enfants 7-8 langues.
Oui.
Mais 4 langues sont pour demain la nécessité.
Oui, absolument.
On y arrivera ?
Oui, je me réjouis que le nouveau ministre de l'Éducation ait décrété l'obligation d'apprendre une langue très tôt, une langue étrangère très tôt. Parce que si vous voyez ici les enfants de l'école européenne qui rassemblent des jeunes gens et des jeunes filles de tous les pays, vous verriez avec quelle facilité ils apprennent les langues et qu'ils communiquent entre eux.
Alors dans ce livre, on y reviendra parce que c'est Jacques Delors et Clisthène, et vous me direz qui est Clisthène.
Oui, bien sûr.
Pour revenir quand même aux grandes dates, mais il y a cette petite phrase, la France, comme chacun le sait, s'enorgueillit d'un nombre considérable de fromages et d'une diversité presque aussi grande de conceptions qui s'affrontent.
Mmh.
Je veux dire, c'est vrai, là. Mmh. La France est quelque chose.
Hein. Oui.
Mais les autres pays nous ressemblent de ce côté-là, du côté des confrontations, du côté des guerres intestines.
Non, je crois
tout
que
le monde a raison chez nous, vous
non.
savez.
Le point commun à tous ces pays, c'est qu'ils sont des démocraties. Et que par conséquent, ils votent régulièrement. Ils redonnent la parole au peuple. Ça, c'est à la fois notre grandeur, notre fierté, mais c'est en même temps une contrainte. Mais pour le reste, le climat de guerre civile froide en politique est beaucoup plus ancré en France qu'ailleurs, hélas. Et c'est une de nos faiblesses.
Enfin, je ne peux pas oublier que vous avez été proche de Jacques Chaban-Delmas, que vous avez été ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand, donc vous étiez au pouvoir.
Ça ne veut pas dire autant que je suis un caméléon.
Oui, mais vous étiez à ce moment-là comme les autres. Vous faisiez partie de cet univers où la politique est d'abord le pouvoir.
Non, ce n'est pas ma tasse de thé, ça. Je crois que j'ai choisi, dès l'âge de 14-15 ans, une voie. Je pense que la société doit être plus ouverte à ceux qui ont peu de chance dans la vie. Mais qu'en même temps, elle ne doit pas empêcher ceux qui sont les meilleurs de gagner. Ce mélange de méritocratie et de solidarité, ça a toujours été ma voie. Alors j'ai commencé par la jeunesse ouvrière chrétienne, et j'ai toujours été fidèle à cela. Alors évidemment, mon parcours est un peu étonnant. Je n'obéis à la loi d'aucun clan. Je me sens indépendant, mais indépendant d'une manière déontologique, philosophique, si vous voulez, personnelle. Pour le reste, j'ai toujours été solidaire des gens avec qui je travaillais.
Mais indépendant, ça ne veut pas dire aussi, en certains cas, un tout petit peu marginal ?
Oui, il faut le dire.
Ouais.
Une fois, pas
c'est-à-dire,
trop.
C'est-à-dire complètement libre.
Parce que affirmer trop sa marginalité, les autres prennent ça comme une insulte. Mais je crois qu'une vie n'est qu'une vie et qu'il faut avoir quelques points de repère.
Une marginalité, c'est aussi un sens de la provocation. Je ne peux pas oublier qu'un jour, vous avez dit que vous ne seriez pas du tout opposé si Raymond Barre venait au pouvoir, pas du tout opposé à être son premier ministre. Je dois dire que cela a frappé dans les chaumières.
Oui, il faut tirer 2 leçons de cet événement.
Oui.
Premièrement, c'est que mes collègues qui font de la politique ont peu d'humour. parce que...
Vous en aviez beaucoup à ce moment-là, lorsque vous l'avez dit.
Oui, bien sûr, bien sûr. Anne Sinclair, dans son émission, m'avait demandé un jeu. Et c'était ma manière à moi de montrer que j'étais ouvert.
Oui.
Et la deuxième leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il ne faut jamais avoir raison trop tôt.
Ouais.
Sauf en Europe. Parce que là, les pionniers, sauf même en 69-72, quand j'ai essayé de réconcilier l'État, le patron et les syndicats, là, il fallait avoir raison un peu tôt.
Aujourd'hui, vous seriez d'accord pour entrer dans le ministère de François Mitterrand, qui est dirigé par Michel Rocard? Vous vous posez la question ou vous, vous considérez plus à une place de plus haute altitude ici à Bruxelles?
Oh, ce n'est pas une question d'altitude. C'est... Je m'apprêtais à rentrer en France à la fin de cette année, sans rien demander. J'allais écrire deux livres qui me tiennent à cœur, signer des contrats, et puis voilà, tous les chefs de gouvernement m'ont demandé de recommencer pour 4 ans. Alors, et ils m'ont dit d'un air sourcilleux que c'était mon devoir. Alors, devant de telles paroles, moi, je me lis et je fais.
Et vous avez été sur un plan de l'amitié d'abord flatté, et puis sur un plan de la responsabilité occupé, et vous avez accepté.
Oui.
Et moi, ce qui me retient, ce sont les deux livres que vous souhaitiez écrire. C'était des livres de, pour essayer d'aller un peu plus loin, pour dire ce que vous aviez sur le cœur.
L'un était pour réhabiliter mai 68, dont je ne fus pas un acteur, mais un
spectateur. Réhabiliter.
Oui, mais un spectateur.
Donc un grand moment de l'histoire, mai 68.
Oui, un grand moment de l'histoire qui, comme toujours, a marqué la société sans qu'elle s'en rende compte et a fait l'objet, depuis, de la part d'esprits distingués, d'analyses qui m'ont beaucoup choqué. Et le second, là, qui était beaucoup plus ambitieux, c'était d'expliquer ce que pourrait être le socialisme démocratique de demain. Mais je me sentais vaillant pour faire ces deux tâches, et donc je n'avais aucun problème, contrairement au bruit qui se murmure dans Paris, le parisianisme étant un des phénomènes les plus offusquants qui soit.
Alors, on parlait de marginalité, on pourrait dire de la même manière que vous êtes un socialiste marginal.
Je suis socialiste. C'est
mais marginal. Vous êtes d'abord président de la Commission européenne.
Ah ben, actuellement, dans mon travail, je dois oublier que je suis français et socialiste pour être le président de la Communauté européenne. Je dois... la Commission européenne, les auditeurs se demandent ce que c'est, comme chaque fois que je vais en France. Moins maintenant, mais il y a 3-4 ans.
Alors pourquoi se demandent-ils ce que c'est? Est-ce que la communication passe mal, alors?
Oui, c'est d'abord que nos institutions sont compliquées. Et que deuxièmement, la communication passe mal parce que, voyez-vous, je suis impuissant à expliquer la même chose à 12 opinions publiques dont les caractères sont différents. Si je ne suis pas relayé par les gouvernements nationaux, par les responsables de chaque pays, je n'y arrive pas. Je fais un effort de temps en temps sur un pays. Je fais par exemple un gros effort du côté de l'Allemagne fédérale parce qu'ils avaient la présidence et ça, nous avons beaucoup avancé. Je suis très heureux, mais il est très difficile. Alors qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons le monopole de la proposition. Les ministres des 12 ne peuvent pas décider sans une proposition de la Commission. Et même si je retire cette proposition, ils ne peuvent décider qu'à l'unanimité. Deuxièmement, nous exécutons les décisions du Conseil des ministres des 12. Et troisièmement, nous contrôlons. C'est-à-dire que nous pouvons, comme un arbitre de football, sortir un carton jaune, quitte à demander à la Cour de justice, qui est une institution très importante, de sortir le carton rouge.
Ça, c'est l'exclusion.
Oui. Voilà. C'est pas l'exclusion de la communauté, mais c'est la peine. On est pénalisé. On a mal joué, on n'a pas respecté les règles. Voilà ce que nous faisons. Et il se trouve, et c'est ça la fierté de la présente commission, que cette relance de la construction européenne, on peut le dire sans vanité, est due à 80% à la stratégie et aux propositions de la commission. Voilà pourquoi celle-ci, maintenant, fait l'objet d'envie et de critiques.
Ce qui n'était pas le cas autrefois.
Oui, on pouvait, vous savez, des fois, malheureusement, on peut passer inaperçu.
Alors, ce qui va changer maintenant, en 1992, c'est vrai, les gens ne comprenaient pas. Ils passaient une frontière, par exemple, et ils étaient dans la pénible obligation de présenter un passeport. Ils disaient, c'est ça l'Europe?
Ben, je crois que...
Des choses banales.
Oui, bien sûr, mais il est très difficile d'aller du plus compliqué au plus simple. Et pourtant, la relance que j'ai conçue était fondée sur l'Europe de la nécessité. Pour les raisons que nous avons évoquées. Je l'ai dit en passant, nous étions au défi. C'était la survie ou le déclin. Fort heureusement, ils ont choisi la survie. Bon, mais tout cela intéresse qui ? Les hommes politiques, les grands chefs d'entreprise, qui sont en avance d'ailleurs sur les hommes politiques en ce qui concerne cette perception du risque de déclin, les organisations syndicales, agricoles et autres, mais le citoyen. Et ça, François Mitterrand en avait eu l'intuition dès 1984, quand la France, à son tour, puisque on change tous les 6 mois, présidait la Communauté européenne, et il avait créé un comité chargé d'étudier, par donner le langage, l'Europe des citoyens. Mais de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de la culture européenne, du sport européen, de la façon de passer les frontières, de la possibilité de faire ses études dans un autre pays, d'y trouver un emploi. Bref, de se dire... En 92, je suis français, non seulement je suis français, mais j'aimerais que, grâce à une réforme institutionnelle en France, on puisse dire « je suis de telle région, et j'en suis fier, et j'y travaille. Je suis français, j'en suis fier, je vote, je m'active, et je suis en même temps européen. » Voilà mon rêve. Mais je ne leur demande pas d'être européen en oubliant d'être français, et basque, ou béarnais, ou autre.
Donc, demain, enfin après 1992, un étudiant pourra faire ses études dans tous les pays d'Europe et avoir des compléments ou du moins une continuité.
Et pour montrer que c'est possible, nous avons lancé un programme qui s'appelle Erasmus, parce que le monde bouge aussi avec des idées, pas simplement avec des rapports de force. Et nous, il faut toujours que nous apportions des idées. Là, nous avons apporté une stratégie qui a réussi. Dans l'avenir, nous devrons apporter des idées. Par exemple, le chômage de longue durée est une plaie en Europe. C'est lui qui amène la marginalisation sociale, le désespoir et la pauvreté. Il faut que nous diffusions toutes les expériences réussies, que nous en inventions, parce que les idées mènent autant le monde que les rapports de force. Mais là, avant qu'il y ait reconnaissance mutuelle des diplômes, il fallait une expérience. Je crois qu'il y a environ 10 millions d'étudiants en Europe. Il n'y en a que 70 000. Qui vont faire une partie de leurs études ailleurs, et encore par des accords bilatéraux. Alors nous avons créé ce programme Erasmus, ce qui veut dire que si je veux faire des études de droit, je peux les commencer à Paris, je peux les continuer à Kiel en Allemagne et les finir à Londres ou à Rome. Et avoir un diplôme qui sera reconnu comme les autres diplômes.
Vraiment ? Vous pensez que le diplôme sera reconnu comme
absolument.
Les autres diplômes ?
Au contraire, il aura plus de valeur.
Oui.
Parce qu'il y aura plusieurs traditions juridiques, si c'est un étudiant en droit, et il y aura plusieurs langues parlées et maîtrisées dans la technique professionnelle.
Voilà, je crois qu'il est bon de dire tout cela, de dire s'il y a 12 pays de l'Europe, il y a aussi des pays qui gardent toute leur identité, même dans ces pays, il y a des régions qui doivent être revalorisées et mieux comprises. Mmh. Et le paysage politique, lui aussi, a changé. Alors y aura-t-il encore pour demain, en 1992, je crois qu'il existera parce qu'on ne peut pas rêver, y aura-t-il encore ce fameux clivage droite-gauche, c'est-à-dire cette politique qui abîme tout, reconnaissez-le, Jacques Delors.
Oui, mais enfin là, je crois qu'il faut faire une distinction. La démocratie, qui est menacée, parce que, dans le fond, les démocraties sont minoritaires dans le monde. La démocratie, c'est le double devoir d'accepter le consensus lorsqu'il est vital et nécessaire pour une collectivité, et entre-temps d'affirmer sa différence pour que le citoyen puisse choisir. Il y aura donc toujours une droite et une gauche, un mouvement plus enclin à conserver, un mouvement plus enclin à changer. Mais ce qui est possible qu'il y ait en 92, ce sont des partis européens. Il pourra peut-être y avoir un parti social-démocrate européen. Et quand vous paierez votre cotisation et participerez à votre parti national, vous paierez aussi une cotisation pour votre parti européen. Et ces partis permettront aux gens de mieux se comprendre, d'effacer leurs différences qui sont secondaires et d'aboutir à de grands débats d'idées en Europe.
Vous pensez, Jacques Delors, que vous avez gagné aujourd'hui parce qu'il y avait cette phrase qui a un peu de pessimisme. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, vous disiez, parlant de l'échéance de 1992, il faut faire vite, sinon l'Europe va devenir un champ archéologique où Japonais et Américains viendront contempler les traces de mode de vie et de pensée disparues.
Oui, parce que, vous savez, cette Europe, il fallait la secouer.
Mais oui.
En 1973, je crois, c'est la première fois où j'ai dit c'est le choix entre le déclin et la survie. On ne m'entendait pas. On disait, comme toujours, il dramatise. Mais aujourd'hui encore, le monde va vite. Vous savez que dans certains domaines, ça va plus vite que, pourtant, les fantastiques progrès que nous avons réalisés depuis 3 ans. C'est une course de vitesse. En termes géopolitiques, c'est-à-dire les rapports de force. En termes technologiques, la science fait à nouveau des bons considérables et pose des problèmes éthiques d'une importance majeure. Bref, tout va vite. Et il faut être encore dans le coup. Et nous continuons à vivre, enfin beaucoup d'entre nous, continuent à vivre avec le souvenir des splendeurs passées, un certain culte de l'âge d'or.
Mais Jacques Delors, vous pensez que cette Europe, c'est la grande affaire de votre vie, sur un plan personnel? Vous qui avez eu 13 métiers et qui faites aujourd'hui le 14e.
Moi, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Mais celui-ci, évidemment, me transcende davantage. Mais vous savez, quand il fallait faire comprendre à la France qu'en dehors de la rigueur économique, il n'y avait pas de salut, alors que ce pays s'abandonnait depuis des années aux délices de l'inflation, c'était aussi une grande tâche. Et je me sentais parfois singulièrement seul. Donc, tout me stimule.
Mais on se souvient quand même de certains moments. Je ne sais pas à quel stade vous avez été le plus heureux. Est-ce au ministère de l'économie et des finances? Est-ce près de Jacques Chaban-Delmas?
Où j'ai été le plus heureux, c'est quand, en plus de mon travail à la Banque de France, je dirigeais le bureau d'études de la CFDT, et quand j'étais au commissariat du plan avec M. Massé. Voilà, les deux moments professionnels.
Donc un peu syndicaliste encore?
Toujours.
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 Non, parce à la place que vous occupez, vous ne pouvez plus être syndicaliste.
Non, mais je veux dire, quand je vais les voir, je me sens comme un poisson dans l'eau.
Mais à la vérité, vous auriez pu avoir plusieurs vies. Vous auriez pu être cycliste.
Oui.
Parce que vous êtes l'un des grands spécialistes quand
oui,
même.
Oui, non, j'aurais plutôt cyclisme. Être journaliste sportif parlant du cycliste. Non, oui. Le sport dans lequel j'aurais pu briller davantage, si je n'avais fait que ça, c'est sans doute le basketball. J'ai joué en division nationale, mais enfin, ça ne suffit pas. J'aurais préféré faire mieux. Mais j'étais un peu petit pour
ça. Mais comment se fait-il que vous ayez cette science particulière par rapport au cyclisme et à d'autres sports? Parce que, je le sais, je vous ai vu, et les journalistes qui nous écoutent, les journalistes sportifs, savent la véritable connaissance que vous avez de ce sport, mais très, très poussée.
Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que quand j'étais tout jeune, nous allions au patronage catholique. Nous jouions au ballon, dans la rue même. J'ai même perdu des dents une fois, en jouant dans la rue, près de la prison de la Petite Roquette. Et le sport m'a toujours passionné. Puis j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer le handball, le football, le basketball et le rugby au hasard des villes où j'étais pour mes études secondaires. Bref, ça m'a toujours intéressé. Et donc aujourd'hui encore, je suis passionné par ça. Et puis il y a une autre chose que je n'avais pas bien compris, mais qu'un ministre des Affaires étrangères m'a expliqué, n'est-ce pas? Des gens disent, comment se fait-il qu'il travaille tout le temps? Il ne se détend jamais. Et en réalité, ce ministre des Affaires étrangères qui travaille tout le temps m'a dit, mais c'est en changeant d'occupation que l'on se détend. Et donc moi, à 11h30 le soir, je prends les revues sur le cyclisme et je les lis. Et puis ça me détend.
Et puis vous prenez aussi les disques, parce que vous avez une passion pour la musique.
Oui.
Et particulièrement le jazz.
Oui.
Bon, vous aimez le classique, mais vous êtes là aussi encore un spécialiste du jazz.
Oui.
Vous avez été musicien?
Non, quand j'étais jeune, j'ai chanté, j'ai joué dans un orchestre, oui. En plus, pendant mes études, mais pas plus. Je n'ai pas poussé là-dessus. D'ailleurs, je n'étais pas très doué pour la musique.
Et vous vous reconnaissez dans la musique d'aujourd'hui, par exemple, dans le rock?
Non.
Comment réagit le président de la Commission européenne? Parce que...
Non, j'écoute, mais ce sont des musiques métissées, si vous voulez, qui empruntent, le rock emprunte à la country music, au jazz, au swing, sont des choses différentes. Il n'y a pas la pureté qui existe dans le jazz, qui demeure un genre. C'est un genre fondé sur le rythme et sur l'improvisation, et tout cela parfaitement maîtrisé.
Mais à la place que vous occupez, vous admettrez quand même qu'il y ait partage de toutes ces musiques, même si vous ne les aimez pas.
Ah non, mais je veux dire que ce n'est pas ma préférence. Je ne les déteste pas.
Je me demande, Jacques Delors, si vous n'auriez pas dû faire une carrière d'homme de radio, de télévision.
Ah, oui,
vous avez dit journaliste.
Oui, je voulais être journaliste ou metteur en scène quand j'étais jeune.
Une grande boulimie quand même pour toutes les disciplines
oui.
artistiques.
Oui.
Et vous êtes allé du côté de la politique. C'est quand même un rendez-vous manqué. Hein.
Politique, je n'y suis que depuis 1979.
Ouais,
avant, j'ai été syndicaliste ou l'homme du service public, fonctionnaire. Moi, j'ai la passion du service public.
Enfin, cette musique, en tout cas, vous la vivez.
Oui.
Ça n'est pas simplement choisir un disque
C'est mon médicament préféré, quand je suis fatigué.
Il y a aussi Mozart dans votre vie,
oui.
Mais... Vous arrivez à, de temps en temps, quand même aller au concert?
Non. Je travaille en écoutant de la musique.
Pourquoi vous faites interdiction d'aller dans les dîners en ville, dans les réunions, dans les concerts,
de
fréquenter les autres?
Je ne suis pas assez doué pour ne travailler que 9 heures par jour. Voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup à faire. C'est comme ça.
Alors, il y a cette phrase de Fernand Braudel, « La seule solution d'une certaine grandeur française, c'est de faire l'Europe. » La seule façon de respirer sur un espace suffisant, c'est de faire l'Europe. La France a devant elle des tâches qu'elle devrait considérer avec attention, avec enthousiasme. Elle est devenue toute petite, non parce que son génie s'est restreint, mais en raison de la vitesse des transports d'aujourd'hui. Je crois que toute l'explication
oui,
est là.
Oui.
Tout va si vite que vraiment, il faut beaucoup fréquenter.
Vous savez, au lieu d'aller dans les dîners en ville, relire Braudel ou relire Max Weber ou Tocqueville, c'est beaucoup plus important. Parce que nous vivons dans une époque où les hommes politiques, qui sont tellement attirés par les médias, par le look, en ont oublié d'avoir une mémoire. Et dans le fond, l'homme ne fait que renouveler constamment les mêmes aspirations, les mêmes promesses et les mêmes erreurs. Voilà pourquoi il est très important de replonger tout le temps ses références dans l'histoire. Quant au géographe, lui, il nous apprend comment l'homme s'accommode avec la nature et avec les autres. C'est une leçon essentielle pour la vie.
Vous avez le temps, parfois, de vous plonger dans la littérature que vous aimez, ou au contraire, votre action à la Commission européenne vous prend tout le temps?
Non, je lis pratiquement, hélas, pratiquement plus de romans. Je le regrette beaucoup, mais si de temps en temps je reprends les classiques. Mais pour le reste, c'est mon épouse qui me raconte.
Alors là, depuis 4 ans, la bataille est engagée pour un rayonnement français plus important, et les 12 pays membres de la communauté européenne essaient de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui des actions européennes, il faut une totalité des actions. Mmh. Alors quel est le plus urgent à faire? Parce qu'on a parlé beaucoup de politique, on a parlé de tout, mais l'Europe c'est aussi la culture, l'Europe c'est la radio, c'est la télévision, c'est la littérature, c'est la musique, ce sont les échanges, c'est ce qui permet de vivre et de bien vivre.
Oui, bien sûr.
Mais de s'enrichir.
L'Europe de la nécessité, c'est l'intendance. C'est-à-dire être compétitif. Rester debout aujourd'hui sur le plan économique. Sans cela, rien n'est possible. Même pas, et j'y reviendrai, le rayonnement culturel. Mais cette intendance, si elle fonctionne, elle doit être au service d'un projet de société. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y a un quasi-consensus entre les 12 pays, quel que soit leur gouvernement, pour admettre qu'il y a un modèle européen de société. Une sorte d'équilibre entre les exigences de la société et les aspirations de l'individu. Que traduit, par exemple, notre système de sécurité sociale, qui existe dans tous les pays. Mais au-delà de cela, je pense que l'Europe ne prendra pas s'il n'y a pas plus. On parlait de nos efforts communs dans la lutte contre ces terribles maladies qui sont le cancer et le sida. Mais si je devais situer l'enjeu qui est au carrefour de l'économique, de la technologique et du culturel, je dirais l'audiovisuel. Technologique, les Japonais sont en avance pour la télévision haute définition. Si nous ne les rattrapons pas, nous ne produirons plus demain d'appareils. Par conséquent, il y a un projet qui a été présenté à Brighton il y a 3 semaines et qui montre que les Européens peuvent faire aussi bien que les Japonais. Nous avons relevé le gant. Économique. Est-ce que l'on peut faire circuler aujourd'hui les images aussi bien que circulent les marchandises? Eh bien, c'était ça qui est extraordinaire. Les images circulent moins vite que les marchandises. Donc nous avons présenté des règles du jeu pour que toutes les images produites ou diffusées en Europe puissent aller partout. Bien sûr, nous demandons des règles. Alors, ces règles comportent, par exemple, le règlement de la publicité, ou bien encore, une augmentation croissante des œuvres d'origine européenne. Et nous en arrivons au troisième point, qui est culturel. Il ne faut pas que dans 10 ans, tous les téléviseurs soient japonais, toutes les émissions américaines et tous les téléspectateurs européens. Parce qu'aujourd'hui, même si nous avons des créateurs de talent, s'ils ne peuvent pas s'exprimer à travers le moyen le plus répandu, 3 à 4 heures passées devant la télévision par chaque Européen, alors ils ne pourront pas exister. Par conséquent, c'est une bataille formidable et je suis heureux de pouvoir montrer, je l'espère clairement, le lien entre la technologie, l'économique et le culturel. Parce que le monde d'aujourd'hui est comme ça.
Mais que faites-vous pour cela, Jacques Delors? Bon, il y a cette Commission européenne et cette culture. Non, mais
les propositions que nous avons faites.
Mais
nous avons encourager cet effort pour la télévision de haute définition. Sans la Commission européenne, ça ne serait pas fait. Nous avons fait ces propositions au gouvernement, qui les regardent avec réticence, parce qu'ils sont restés provincialistes. Ils sont restés repliés sur eux-mêmes. Autrement dit, les entraves les plus graves qui s'opposent à l'Europe, ce n'est pas les frontières, ce n'est pas l'harmonisation des normes, ce n'est pas l'ouverture des marchés publics, c'est celui de rester chacun avec son petit terrain. Et d'être fier d'avoir son petit terrain, son petit grain à moudre.
Oui, Jacques Delors, nous sommes quand même noyés sous les feuilletons américains.
Oui.
Je veux dire que je ne suis pas contre vraiment le partage de toutes les richesses dans le monde.
Oui, surtout qu'il y en a d'excellents. Hein.
Mais regarde, il peut y avoir de grandes choses. Mais regardons les dynasties, les Dallas et tout. Moi, je veux bien qu'on soit envahi par l'Amérique.
Mais moi, je ne veux pas.
Bon, mais dans le même temps, je ne vois pas aux États-Unis nos produits sur les étranges lucarnes, sur les récepteurs de télévision. Donc, nous, on leur prend énormément de produits. eux ne nous prennent rien. Alors, on pourrait se poser la question, sont-ils des dieux et sommes-nous pauvres ?
Non, cela veut dire simplement que nous n'arrivons pas à produire des œuvres qui les intéressent dans la langue qu'ils parlent. Et ça, il faut le faire.
Il faut le faire, il faut s'y préparer.
La première tâche est que sur les 125 000 heures de télévision dont nous avons besoin par an, nous en produisions plus que le cinquième, ce qui n'est hélas le cas actuellement. D'où le triptyque que je vous ai dit. Mais il faut aussi conquérir les autres marchés. Il en va de ce domaine audiovisuel comme des frigidaires, des automobiles ou des postes de téléphone. Nous devons être présents partout.
Oui, Jacques Delors, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait... Mais ce n'est pas seulement la Commission européenne, c'est le monde entier, c'est toute l'Europe, et ce sont les hommes politiques qui auraient dû vraiment veiller à tout cela. La télévision, c'est quand même le premier pouvoir dans ce sens-là, du moins pour faire passer la communication. C'est quand même une galerie, c'est une vitrine. Oui, pourquoi on ne s'est pas occupé de tout cela très vite ?
Parce qu'il y a un retard des esprits. Autant, je crois, que nos gouvernements ont compris qu'il fallait supprimer les entraves entre nous pour la circulation des personnes, des biens, des services et même des capitaux, que tout cela nous amènerait davantage de croissance. On a même calculé que si on mettait en commun tous nos efforts, pourrions créer, vous rendez compte, 5 millions d'emplois. Mais en ce qui concerne la télévision et la radio, ils sont restés provincialistes et pour tout dire, nos hommes politiques connaissent l'orgasme en s'occupant de télévision. Voilà le drame. Ils n'ont pas à la fois banalisé ce produit de façon à lui rendre sa réelle portée.
Ils croient que c'est leur jouet.
Voilà.
Et ils en jouent très mal, d'ailleurs.
Alors ça, je vous laisse votre appréciation. Mais moi, ce que je considère, c'est que tant que l'on voudra faire joujou à cause de son pouvoir avec la télévision, et ce, dans tous les pays, on n'arrivera pas à penser la télévision au niveau de l'Europe, de nos cultures et au niveau du monde. Voilà. Il faut faire le saut intellectuel. Il faut renoncer à des facilités, à des pouvoirs qui sont mesquins, qui n'existent pas. Si vous pouvez changer demain le président d'Antenne 2, est-ce que cela changera quelque chose au fait que Antenne 2 diffusera 60% d'œuvres américaines ? Où est le véritable pouvoir ? C'est celui qui permettrait de donner la chance à tous nos créateurs sur nos antennes. Et non pas de changer une personne.
Alors, autre aspect, Jacques Delors, de la situation, pour l'instant, et nous l'avons dit, notre télévision est encombrée de séries, de feuilletons américains, et il y aura beaucoup à faire pour faire circuler des films allemands ou anglais ailleurs. Hein. Oui. Mais on peut se poser cette question. Ces séries américaines sont quand même très bien accueillies par le public.
Oui.
Je veux dire qu'il y a des scores, le fameux Audimat,
oui.
Vous savez, alors c'est fou. Le résultat qu'obtiennent des séries, parfois même les plus médiocres. Donc, le public, parfois, souhaiterait regarder ces mauvaises images. Alors, le public n'est pas innocent. Le public est également responsable. Donc, c'est le public qu'il faut éduquer ?
Non, je crois que le consommateur est roi partout.
Ah oui, mais ça, c'est...
Transposons un peu cette question. Ces dernières années, Renault et Peugeot ont perdu des parts de marché pour leurs voitures. Est-ce qu'ils ont dit, puisqu'ils préfèrent les voitures étrangères, tant pis. Non, ils se sont battus, ils ont reconquis des marchés. Eh bien, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose, nous, en voyant ce qui plaît à la fois aux téléspectateurs, mais pas simplement cela. C'est pour ça qu'il y a une notion de service public dans la télévision. Car l'homme d'État, celui qui est responsable d'une société, lorsqu'il a des instruments aussi puissants, je ne dirais pas à sa disposition, mais il ne devrait pas les avoir à sa disposition, mais qui sont dans le pays, il doit se dire qu'à certains moments, il faut faire ennuyeux, comme dirait l'autre. Il faut quand même rappeler à nos enfants qui regardent tant la télévision nos racines, l'histoire, et non pas simplement leur offrir des dessins animés ou de la violence adoucie parce qu'il s'agit de jeunes. Il y a donc une responsabilité du service public, mais on ne doit pas, au nom de cela, empêcher une véritable compétition et une autonomie de tous ceux qui ont la compétence pour traiter de ces questions.
Vous avez été,
ça n'est pas facile. Hein.
Vous avez été très attentif, Jacques Delors, à cette année de la télévision et du cinéma.
Oui, oui elle a commencé...
En tant que président de la Commission européenne.
Oui, elle a commencé difficilement. Madame Simone Veil a fait beaucoup pour cela, puisqu'elle était présidente de cette année. Au début, tout le monde s'est précipité en croyant que nous étions la caverne d'Ali Baba. On allait pouvoir donner de l'argent et à tous les producteurs, réalisateurs et autres. Et puis, le tilt est venu, là, dans une réunion à Venise, ils ont compris qu'ils avaient des intérêts communs, quelle que soit leur profession. Les gens de la télévision, les gens du cinéma, les gens du théâtre, les gens du script. Bref, je crois que maintenant, ils ont compris qu'il fallait se mettre tous ensemble pour défendre ce qu'ils sont capables de faire du point de vue de la création artistique, de l'émotion, de l'esthétique et autres. Et à partir de cette base, on va avoir sans doute le même phénomène que nous avons eu pour le grand marché économique. C'était, ce sont les chefs d'entreprise qui ont été mes plus ardents supporters. Pour l'audiovisuel européen, ce seront les créateurs, les hommes de la profession, les hommes et les femmes de la profession qui seront les principaux supporters.
Donc il y aura une Europe de l'audiovisuel,
l'espère.
Une Europe de la littérature, une Europe du cinéma. Il y aura enfin une Europe avec un drapeau. Vous y croyez à ce drapeau ?
Bon, ce drapeau, c'est simplement pour rappeler qu'on est tous en Europe, mais il faut faire attention en ce moment.
Oui.
Je crois que, comme c'est difficile, par exemple, de libérer les mouvements de capitaux, d'harmoniser les systèmes fiscaux, d'ouvrir ces marchés publics, alors il y a des hommes politiques qui sont tentés de dire « Oh là là, mais tout ça, la Commission est trop puissante, nous allons perdre notre identité nationale, etc. » Ce sont de mauvais bergers. Ils retardent ce qui doit être fait et ils nous replongent côté déclin. Déclin doré, mais déclin quand même. Le chauvinisme est aujourd'hui l'obstacle numéro un. Il faut le danger qu'il faut combattre. Et pour cela, il faut rappeler, comme je disais tout à l'heure, que si l'Europe se fait, même l'Europe politique, nous resterons pleinement français et fiers de l'être.
Mais on se défera du chauvinisme. Il faudra combien de générations encore pour
gommer ? Il nous restera quand même quelques éléments pour assouvir nos passions, n'est-ce pas, sur les terrains de football, sur les terrains de rugby, dans tous les sports et autres.
On ne perdra rien
de
tout ça.
Et même dans le concours de la meilleure chanson européenne, où chacun pourra à son tour se flatter, de même que lorsqu'on joue, vous le savez, au rugby entre une équipe béarnaise et une équipe basque, hein. Là, on peut y aller un coup. Hein.
Pour me faire plaisir, vous auriez pu dire une équipe bigourdane.
Non,
mais nous avons des équipes bigourdanes. Il y a quand même Bagnères, il y a Lourdes, il y a Tarbes. Je tiens à vous le dire, Jacques Delors.
Oui, je sais, je sais.
De quelle manière êtes-vous basque ?
Pas mon épouse. Elle est du pays de Soule.
Alors, il y a aussi l'école. L'école doit faire acquérir, autant que des savoirs et savoir-faire, des instruments, méthodes et outils de connaissance. Elle doit développer les aptitudes et capacités personnelles. Instruments et savoirs, savoir et savoir-faire, intelligence, forment un tout, évidemment. La motivation est essentielle, on travaille mal si on s'ennuie.
Oui. Alors, dans cet ouvrage de Clisten...
Clisten, d'abord, j'ai dit tout à l'heure, je vous dirai qui est Clisten. Dites-le-moi.
Oui, Clisten, c'est le nom d'un homme qui a beaucoup compté dans l'Antiquité, pour la démocratie et autres. Non. Mais Clisten, c'est l'aventure en commun d'une quarantaine d'hommes et de femmes qui ont eu des itinéraires variés quand ils sont parmi les plus âgés, qui sont dans les partis politiques, dans les syndicats ou autres, mais qui ont décidé de travailler ensemble. Mais ce n'est pas le club antichambre d'un parti politique, ce n'est pas le club promotion d'un présidentiable. Non, ce sont des gens qui travaillent ensemble, sont heureux de le faire. Et c'est tout.
Vous avez quand même dit que ça n'était pas l'antichambre d'un présidentiable.
Non.
Pourquoi on aurait pu vous le reprocher ?
Non, mais c'est un autre genre. Nous sommes là ensemble. J'ai beaucoup tenu à ce que ce petit club ne soit pas confondu avec d'autres clubs, comme celui que j'ai fondé, Échanger Projet, qui va très bien, comme Démocratie 2000. Ce sont mes petits-enfants du Parti Socialiste qui vont très bien aussi. Non, j'ai voulu... Là, ce sont des gens qui viennent pour la convivialité et l'espoir partagé.
Jacques Delors, vous avez eu d'autres responsabilités. Celle-ci est importante, président de la Commission européenne. Vous arrivez au bout de vos efforts, 1992. Mais vous êtes jeune, vous avez encore d'autres ambitions. Alors, quelles sont ces ambitions ? Vous voulez jouer un rôle éminent dans les années qui viennent, ailleurs ?
Écoutez, je crois que l'hygiène de vie, c'est de ne jamais se poser cette question.
Ah bon ?
Alors, c'est très discuté, ça.
Oui, discutable aussi.
Et très discutable. Parce que certains disent, Jacques Delors n'a pas assez d'ambition. Mais quand je vois les problèmes que se posent ceux qui ont des ambitions, les couteaux qu'ils sont obligés de mettre derrière leur ceinture, le goût du sang qu'ils doivent avoir pour arriver, franchement, je préfère être comme je suis.
Alors, vous dites aussi, les enfants et les adolescents possèdent des trésors de curiosité, même s'ils les dissimulent parfois. Seuls la peur et le sentiment d'impuissance les arrêtent. Ils attendent beaucoup des adultes. Alors les adultes font-ils assez justement pour la jeunesse ? Quelle est leur responsabilité ? Quelle est leur peur ?
Leur responsabilité, c'est d'être présent quand les enfants ont besoin d'eux et c'est de ne pas leur faire plaisir quand leur conscience leur dicte le contraire. Voilà. Autrement dit, c'est de ne pas faire de démagogie avec les enfants. Et vous voyez, ce passage sur l'éducation, il a été conçu notamment par Bertrand Schwartz, qui est un des meilleurs spécialistes français des systèmes éducatifs, mais l'idée m'est venue à l'école communale, quand j'avais 12 ans. J'étais là, à l'école. J'étais parmi les premiers, je ne sais pas pourquoi. J'avais à côté des garçons qui avaient un pouvoir extraordinaire de communication, d'animer les autres. Ah, ils n'étaient pas les premiers à l'école. Il y en avait d'autres qui étaient doués pour la musique, d'autres pour le sport. Dès l'âge de 10 ans, ils étaient sélectionnés, condamnés à l'échec scolaire. Vous trouvez ça normal ? Le système éducatif doit être celui qui permet à chacun de fructifier ses dons. Nous sommes différents, fort heureusement. Mais la France est un pays tellement élitiste...
Aujourd'hui encore ?
Encore aujourd'hui, que dès l'école communale, on sélectionne. Alors, quand j'étais jeune, on sélectionnait sur le français et un peu sur les mathématiques. Puis ensuite, ça a été les mathématiques. Mais le critère essentiel, c'est le concept. Il fallait être bon conceptuellement. Autrement dit, je reprends là la formule d'un journaliste de l'Observateur, le langage était le passeport de la réussite. Alors, quid de ceux qui n'avaient pas, dans leur gène, ni dans leur famille, les moyens d'avoir le langage conceptuel ? Et toutes ces richesses que l'on a gâchées en France et que l'on gâche encore aujourd'hui, parce que nous avons un système élitiste, parce qu'encore aujourd'hui, le refus du face-à-face marque nos relations sociales, nos relations dans l'entreprise, trop souvent. Je sais que je vais choquer ceux qui ont changé cela, mais c'est trop souvent cela. Et il faut absolument que nous apprenions à nous respecter les uns les autres et à tirer de l'autre ce qu'il a de meilleur pour nous. Et c'est ça la base philosophique d'un changement du système d'éducation. Les programmes, c'est secondaire. Le point essentiel est là. Acceptons-nous la richesse des jeunes dans leur diversité. Et les aidons-nous à faire fructifier ces diversités ? C'est la question.
On peut dire qu'il y a égalité des chances aujourd'hui ?
Non. Moi, je l'ai eu parce que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai eu de la chance. Mais il n'y a pas égalité des chances. Il n'y a pas égalité des chances entre le fils d'un énarque qui rentre à l'université et le fils d'un ouvrier ou d'un paysan. Il n'y a pas égalité des chances.
Non, je dis au départ, au départ.
Au départ, il n'y a pas égalité des chances non plus, puisque d'abord, nous sommes différents. Nous avons un acquis qui est différent, mais en plus, il n'y a pas égalité des chances, non. Et ça, je crois qu'il faut bien le reconnaître. Alors certains sont scandalisés. Je me rappelle avoir exposé ces thèses 5 ans après mai 68. Les syndicats d'enseignants qui ont une pensée conservatrice étaient scandalisés. Ils pensent que tout est dans l'inné et qu'on ne peut rien faire. Mais je prétends qu'il y a l'inné et l'acquis. Bien sûr, sur l'inné, on ne peut pas agir. Mais sur l'acquis, on peut beaucoup agir. Je crois que l'école doit donner à chacun l'acquis. Et cet acquis se résume en deux mots, un savoir, parce que nos enfants doivent comprendre que ce que l'humanité a appris sur elle-même est un patrimoine essentiel, et le savoir-faire qui leur permet d'entrer dans la vie professionnelle.
Alors aujourd'hui, Jacques Delors, vous avez une très bonne image de marque. Vous en êtes heureux, cela vous flatte. Comment l'accueillez-vous ? Et tout cela aussi parce que vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus aux affaires, je dis en France.
Quand j'étais ministre des Finances, j'avais de bons sondages.
Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Donc vous y êtes sensible.
Je regarde quand même un peu de temps en temps.
Ouais,
quoi,
ouais.
Hein?
Ouais.
Mais là, actuellement, ça n'a pas changé. Les sondages sont toujours bons et les méchantes langues disent c'est parce que je ne fais rien en France qu'ils sont bons. Mais en réalité, c'est parce que l'Europe commence à devenir une idée qui compte.
Ouais.
Dans le destin collectif et dans l'aventure individuelle.
Vous êtes persuadé que c'est tout de même une réussite, cette Europe et que...
Ah non, ce n'est pas gagné.
Ça n'est pas gagné, mais
non,
enfin... Écoutez, il y a quelques années, on n'y croyait pas du tout.
Disons, vulgairement, c'est reparti.
C'est reparti.
Voilà.
Alors, c'est reparti, et moi, je pense à la musique, encore une fois, parce que vous m'avez dit, je voudrais écouter Jean-Claude Casadesus à la tête de l'Orchestre National de Lille, dans un Beaux-Arts. Il y avait une raison particulière, c'est parce que l'orchestre est en ce moment à l'URSS, et qu'il y tient un triomphe.
Oui, c'est aussi parce que... Lorsqu'on dit musique, on parle trop souvent des musiciens étrangers et on ne fait pas assez de cas des musiciens français. Il y a un peu de snobisme maintenant. Et j'ai voulu réhabiliter en quelque sorte un chef d'orchestre pour lequel j'ai beaucoup d'admiration.
Vous avez raison, hein, Jacques Delors, de dire que parfois on accorde beaucoup plus d'importance aux musiciens étrangers. Ça fait plus chic.
Oui, c'est ça. Voilà.
Alors que nous avons, par exemple, en France, de nombreux interprètes, aujourd'hui, du moins dans le répertoire classique, et de très haute qualité parmi les solistes.
Voilà.
Mais c'est mieux de dire un tel... je ne sais pas, alors sommes-nous... on dit que nous sommes chauvins, et dans le même temps, on est un peu absurde.
C'est-à-dire, nous sommes chauvins et en même temps, nous sommes les enfants de notre époque. C'est-à-dire que la promotion d'un nom, Madonna ou quelqu'un d'autre, aussitôt les hommes politiques se branchent là-dessus. Mmh. Enfin, on fait des coups.
Oui.
Mais moi, je trouve que les coups, ça ne fait pas ni une culture, ni un itinéraire, ni une vie. Mmh.
Ça vous amuse lorsque, à un concert de Michael Jackson ou de Madonna, il y a des ministres au premier rang ? Ou des hommes politiques ?
S'ils y viennent et qu'ils se mettent au 15e rang et qu'ils ne se font pas voir, c'est leur affaire, c'est très bien.
Ouais, c'est qu'ils aiment.
Mais s'ils se montrent au premier rang, j'ai comme l'impression qu'ils ont un complexe d'infériorité et qu'ils pensent que par leur qualité propre ne suffisent pas et qu'il faut qu'ils s'accrochent à une locomotive des médias. Ça me gêne un peu plus.
Enfin, j'ai compris en tout cas que la France aujourd'hui doit passer par l'Europe.
Oui, doit passer par l'Europe, mais elle sera encore plus la France si elle l'accepte.
Je vous donne rendez-vous maintenant en janvier. En janvier, nous allons ensemble réaliser un grand échiquier. Ce sera l'Europe.
J'en suis heureux.
Ici à Bruxelles.
Très heureux.
Et nous essaierons de passer par les 12 pays de l'Europe pour essayer de mieux comprendre ce qu'est vraiment l'Europe. Je rappelle deux titres de livres, Jacques Delors et Clistène. Clistène étant un groupe athénien.
Oui, hein, oui.
La France par l'Europe, ce livre paraît chez Grasset, paraîtra dans les jours
mercredi
qui viennent.
Mercredi prochain, oui.
Et puis il y a cet autre livre, c'est une préface, 1992, Le défi, c'est demain.
Oui, c'est l'ouverture du débat sur les chances et ce qu'offre l'Europe.
Chez Flammarion. Merci Jacques Delors. Je rappelle que nous étions à Bruxelles, dans les studios de la Commission européenne. Vous êtes très bien équipés, côté radio et côté télévision. Je vous en félicite.